France Inter.
Bonsoir Céline Asselot.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, l'armée israélienne mène des frappes contre le Hezbollah au sud du Liban.
Oui, 40 cibles touchées, des troupes déployées à la frontière, c'est l'armée israélienne qui l'annonce. Dans ce qui semble être autant une opération militaire qu'une opération de communication, décryptage depuis Jérusalem, avec notre correspondant au début de ce journal. Dans l'actualité aussi ce soir, TikTok qui recule. Le réseau social annonce suspendre dans l'Union européenne son système très controversé de récompense en fonction du temps passé devant l'écran.
Et on en parle avec l'invité de 18h, c'est Thierry Breton, le commissaire européen au numérique.
Nestlé détruit une partie de sa production d'eau de Perrier en raison de risques de contamination, on va y revenir. François Fillon définitivement condamné dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse, mais sa peine va être réexaminée, on va voir ce que ça veut dire concrètement. Rafael Nadal sera-t-il présent à Roland-Garros ? Pour la première fois, l'Espagnol fait part de ses doutes en raison de son état de santé. On va l'entendre et puis oublier les vieilles collections Harlequin et découvrir la New Romance, genre littéraire en pleine expansion, a désormais une librairie dédiée en Normandie, c'est la première en France et on ira la visiter à la fin de ce journal.
Dans le 18-20 ce soir, il y a d'abord trois mots, le livre le plus détesté de ceux qui détestent les droits humains, c'est comme ça que se vend le rapport 2024 d'Amnesty International. Sa secrétaire générale Agnès Callamard est avec nous et spoiler alerte, hein, ça va pas fort sur la planète niveau droits humains. Il y a aussi une ville ce soir dans le 18-20, c'est la plus russe d'Europe. Elle est en Estonie et ce sera le reportage d'un jour dans le monde. Il y a une sonde Voyager retrouvée par la NASA à 24 milliards de kilomètres. C'est ce que vous nous raconterez, Céline Asselot. Ce soir également dans le monde à 18h50, Franck Madvon compte les points entre la Chine et les États-Unis. Et dans le cinéma en VO, Alexis Demeyer a vu un film israélien qui s'appelle Le Déserteur. En deuxième heure, c'est à partir de 19h20 et c'est le téléphone sonne avec cette question. Sommes-nous réconciliés avec la vaccination? Un peu quand même, c'est ce que semble dire le rapport de cette année de Santé publique France. Et vous, comment ça va niveau piqûre? Allez, bienvenue à bord.
France Inter.
C'est l'armée israélienne qui l'a annoncé tout à l'heure dans un communiqué. Une action offensive a été menée au Liban.
Oui, les avions de combat et l'artillerie ont frappé environ 40 cibles terroristes dans le sud du Liban. C'est le Hezbollah, allié de l'Iran, qui était visé par ces frappes, suivies évidemment avec beaucoup d'attention, tant la crainte est forte d'une escalade régionale. Bonsoir Thibault Lefèvre.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
Vous êtes en direct de Jérusalem pour France Inter. Alors quand l'armée israélienne parle d'une action offensive sur le sud du Liban, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quelle est la situation réelle sur le terrain?
Eh bien, vous l'avez dit, hein, 40 cibles du Hezbollah, donc au sud Liban, à proximité de la frontière, frappées tout à l'heure, donc par l'aviation et des tirs d'artillerie en visite dans la région. Le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, a déclaré aussi que la moitié des commandants du Hezbollah avaient été tués depuis le 7 octobre et que l'autre moitié était en fuite ou se cachait. Alors, dans les faits, la milice chiite a perdu beaucoup d'hommes, mais essentiellement des seconds couteaux, car depuis plusieurs semaines maintenant, les deux belligérants se rendent coup pour coup. Un peu plus tôt dans la journée, des missiles anti-chars en provenance du sud Liban ont touché deux maisons dans la ville israélienne d'Avivim. Et puis hier soir, une quinzaine de roquettes ont visé une communauté agricole, là aussi sur le territoire de l'État hébreu.
Et avec ces déclarations, le ministre israélien de la Défense semble s'adresser, Thibault, essentiellement à son opinion publique.
Oui, à son opinion publique et puis à ses 60 000 civils déplacés qui ont quitté à la hâte cette zone frontalière d'environ 5 km de large juste après le 7 octobre. Une décision précipitée par la crainte à ce moment-là d'une offensive sur plusieurs fronts. Depuis, ces habitants vivent pour la plupart dans des hôtels. Ils n'ont pas de perspective de retour et la colère monte. Le gouvernement doit donc montrer qu'il agit, que ce soit par la force ou par la négociation. Israël veut repousser le Hezbollah au-delà du fleuve Litani, c'est à environ 25 km de la frontière. C'est d'ailleurs ce que prévoit la résolution 1701 des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères français, Stéphane Séjourné, sera samedi à Beyrouth pour essayer de trouver une issue pacifique à une crise qui dure.
Merci Thibault Lefèvre, correspondant de France Inter à Jérusalem. La guerre au Proche-Orient qui fait partie des conflits qui ont intensifié l'insécurité alimentaire dans le monde. Plus de 280 millions de personnes y sont confrontées selon les Nations Unies. Les chocs économiques, les événements climatiques extrêmes accentuent aussi cette insécurité alimentaire. Aux États-Unis, on n'attend plus que la signature de Joe Biden aujourd'hui pour mettre en place le vaste plan d'aide militaire à l'Ukraine. 61 milliards de dollars adoptés par le Congrès américain. Une aide vitale, dit Volodymyr Zelensky qui fait part de sa reconnaissance envers les parlementaires américains.
Le Congrès américain qui a aussi demandé à TikTok de rompre ses ses liens avec sa maison mère et donc avec la Chine.
Oui, sous peine d'être interdit aux États-Unis, la loi a été adoptée à une large majorité. Le patron de TikTok promet de se battre devant les tribunaux. Le réseau social qui est aussi dans le viseur de l'Union européenne en raison de sa nouvelle fonctionnalité TikTok Lite, qui permet aux utilisateurs d'engranger des récompenses en fonction du temps passé sur l'appli. Bruxelles avait menacé de suspendre ce nouveau service en raison de ses risques accrus d'addiction. Mais TikTok l'a devancé. Le réseau annonce ce soir la suspension de ce système de récompenses pour les utilisateurs européens.
Bonsoir Thierry Breton.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes commissaire européen au numérique. Est-ce que vous criez victoire ce soir Thierry Breton ou pas ?
Nous avons une loi en Europe. Cette loi s'applique sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Et nous, elle est là et elle fonctionne. TikTok Lite a été lancé il y a quelques jours et offrait, comme vous l'avez dit, aux enfants, parce que c'est ça dont il s'agit, la possibilité d'engranger des points au fur et à mesure qu'ils regardaient des vidéos. En d'autres termes, plus ils consommaient, plus de points. Cette loi, le DSA, impose aux plateformes, avant de lancer quelques nouvelles fonctionnalités, en particulier, et j'allais dire surtout, vers les jeunes, d'avoir des études d'impact. Alors on leur a demandé, où sont ces études d'impact ?
Et qu'ils n'ont pas fourni.
On leur a donné 48 heures. Ils savaient très bien que si au-delà des 48 heures, ils ne les fournissaient pas, alors nous appliquions la loi et leur système, leur messagerie, leur fonctionnalité pouvait être tout simplement fermée.
Eux, ce qu'ils disent...
Ils n'ont pas voulu courir ce risque, et c'est bien. Mais je voudrais dire une chose. Avant de lancer les applications comme celle-ci, la loi doit être respectée. Donc nous poursuivons, bien entendu, toutes les enquêtes que nous avons lancées. Nos enfants ne sont pas des cobayes. On ne peut pas lancer une application et puis voir ensuite comment ça réagit.
Donc, ils disent...
pas la main qui tremble et ils le savent.
Donc quand ils disent, eux, Thierry Breton, nous avons suspendu volontairement, on sent, vous écoutez, que vous ne le sentez pas tellement volontaire, mais sinon très très contraint quand même.
Ils avaient jusqu'à ce soir minuit pour nous fournir les preuves qu'ils ont respecté le DSA. Ils ont préféré, tout simplement, interrompre le service. On comprend sans doute ce que ça veut dire. En ce qui nous concerne, nous poursuivons l'enquête.
Alors justement, eux, ils interrompent le service, mais pas TikTok Lite. Est-ce que ça veut dire, et c'est ce que j'entends un peu dans vos propos, que vous attendez de pied ferme la prochaine invention de TikTok ? Parce que c'est ça aussi qui nous pend au nez, non ?
Non, c'est à eux. Il ne faut pas inverser les choses. Encore une fois, nous sommes, nous, un continent qui est un continent ouvert, bien entendu, mais nous avons désormais, on est le seul continent au monde à avoir des règles très strictes pour protéger les usagers sur les réseaux sociaux et en particulier les enfants. Donc, s'ils veulent offrir des nouveaux services, il faut qu'ils s'assurent, avant de les offrir, qu'ils ont bien respecté les règles. Au cas d'espèce, visiblement, ce n'était pas le cas. Alors, TikTok Lite, par ailleurs, c'est offrir des services vidéo en utilisant moins de bandes passantes. Pourquoi pas ? Ça va dans le bon sens, si c'est évidemment pour consommer moins de bandes passantes et laisser la bande passante à d'autres usages. Mais utiliser des effets dont tout laisse à penser qu'ils vont être extraordinairement addictifs pour les enfants, ça c'est banni.
Thierry Breton, il y a un bras de fer contre l'Union, on l'entend bien, il y a un bras de fer, on l'a évoqué aussi, contre les États-Unis. Si ça ne tenait qu'à vous, très honnêtement, est-ce qu'on devrait suspendre définitivement TikTok ?
Il n'y a aucun bras de fer contre quiconque en Europe désormais. Il y a tout simplement une loi et chacun doit respecter la loi. Alors aux États-Unis, il n'y a pas de loi, donc il y a peut-être des bras de fer. Chez nous, désormais, il y a une loi, chacun doit la respecter. S'il ne la respecte pas, ce sont des amendes extrêmement importantes. Et s'il poursuit, je rappelle que c'est la deuxième injonction que nous avons contre TikTok, alors nous avons la possibilité de fermer, de faire fermer temporairement, et le temps qu'il faudra, leur service, ils le savent, à charge pour eux de respecter la loi.
En tout cas,
zéro bras de fer, uniquement une loi à respecter désormais dans l'espace informationnel en Europe.
Et en tout cas, ce que vous dites, c'est ça la leçon, mais peut-être que c'est aussi une leçon finalement pour les Américains, dont vous disiez effectivement à juste titre qu'ils étaient en bras de fer. La régulation, Thierry Breton, ça marche ?
Ben évidemment, ça marche. On vient de le voir à l'instant. Mais on l'a vu aussi dans de très nombreux autres cas, avec d'autres plateformes, avec X, avec Meta, avec Alphabet, avec Amazon, avec Apple. Bien entendu, la régulation, ça marche. Et pourquoi ça marche ? Parce que la loi a été votée par nos co-législateurs et que chacun doit désormais la faire respecter. Et les plateformes le savent très bien, ce qui vient de se passer aujourd'hui en Europe, et en particulier en France et en Espagne, puisque ce sont les deux services où ces services étaient les deux pays où ces services étaient offerts. Eh bien, c'est tout simplement que les plateformes ont conscience de cette loi et ont conscience des risques qu'elles encourent. Si elles ne le respectent pas, c'est normal.
Thierry Breton, commissaire européen au numérique, avec nous dans le 18h. Merci beaucoup.
L'actualité ce soir, c'est aussi le groupe Nestlé qui annonce avoir détruit une partie de la production de sa marque Perrier. Cela concerne plusieurs centaines de palettes de bouteilles qui s'apprêtaient à rejoindre les rayons des supermarchés. Destruction par précaution en raison d'un risque de contamination. Cela fait suite aux très fortes pluies qui ont touché le Gard ces dernières semaines. Des bactéries d'origine fécale ont été découvertes dans l'un des forages de la marque. Et on ne peut pas exclure, dit la préfecture, que les eaux conditionnées soit contaminé. Bonsoir Agnès Soubiran.
Bonsoir.
Alors est-ce que c'est une première ou est-ce qu'il s'agit d'un problème récurrent pour le groupe Nestlé ?
C'est un problème récurrent, Céline, et Nestlé a déjà été épinglé pour avoir traité, sans le dire, des eaux minérales afin de maintenir le niveau de sécurité alimentaire des traitements incompatibles avec la mention eau minérale naturelle. Alors la marque Perrier a lancé il y a quelques semaines une nouvelle gamme de boissons appelée Maison Perrier et toute la subtilité est là puisque si le logo est quasiment identique, on ne parle plus d'eau minérale, mais d'eau pétillante. Une boisson embouteillée sur le même site de Vergès dans le Gard où 50 millions d'euros ont été investis et ces eaux peuvent être traitées et éviter ainsi les contaminations. La marque explique avoir dû faire des choix entre sécurité sanitaire, protection de l'environnement et rentabilité. Car depuis plusieurs années, le site de Vergès connaît une baisse importante de production due aux conséquences du changement climatique. 1,2 milliard de bouteilles de Perrier produites l'an dernier contre 1,7 en 2021, en se positionnant sur le marché très porteur des boissons pétillantes, aromatisées ou pas, Maison Perrier espère conquérir un nouveau public.
Agnès Soubiran, spécialiste consommation à la rédaction de France Inter. Combien d'employés vont perdre leur emploi ? Combien de magasins vont devoir fermer leurs portes ? L'inquiétude demeure au sein du groupe Casino, qui vient de présenter un projet de réorganisation. Entre 1300 et 3200 postes sont menacés, dont 500 à Saint-Étienne, au siège du groupe Casino. On ira sur place dans le journal de 19h. Et puis toujours en raison rayon des mauvaises nouvelles industrielles, Duralex est placé en redressement judiciaire. Le tribunal espère trouver un repreneur pour la verrerie française en difficulté financière.
Une nouvelle page s'ouvre dans le feuilleton judiciaire du Penelope Gate.
Oui, 7 ans après le début de cette affaire d'emploi fictif, la Cour de cassation a définitivement confirmé la culpabilité de François Fillon, de sa femme Penelope et de son ancien suppléant Marc Joulot. Mais la haute juridiction estime que les peines prononcées contre l'ancien Premier ministre doivent être réexaminées. Bonsoir Charlotte Piré.
Bonsoir.
Alors est-ce que ça signifie qu'il va y avoir un nouveau grand procès dans cette affaire hors norme ?
Alors ce que dit la Cour de cassation dans son arrêt, c'est que la culpabilité de François Fillon, Pénélope Fillon, Marc Joulot est bien établie. Mais que la Cour d'appel de Paris n'a pas suffisamment motivé la condamnation de l'ancien Premier ministre, car la jurisprudence est assez stricte. Dans le cas d'une condamnation à une peine d'emprisonnement, c'est le cas pour François Fillon, condamné à 4 ans, dont un an de prison ferme, les juges doivent motiver spécialement cette peine, ce qu'ils n'ont donc pas correctement fait selon la Cour de cassation. Alors, qu'est-ce que ça signifie désormais ? C'était votre question, Céline. Cela signifie qu'un troisième procès Fillon aura bien lieu, mais un procès allégé, amputé, limité, selon le qualificatif que vous préférez, car il ne s'agira plus de savoir si l'ancien député s'est rendu coupable de détournement de fonds publics en octroyant un emploi fictif à son épouse, mais de savoir à quelle peine il doit être condamné pour cela. Au cours de cette nouvelle et future audience, deux nouveaux juges de la Cour d'appel de Paris vont donc interroger l'ancien Premier ministre et se pencher sur la gravité des faits, la personnalité de François Fillon, son parcours ou encore sa situation actuelle. Bref, tous les éléments habituellement pris en compte pour déterminer une peine.
Merci Charlotte Pierret du service police-justice de France Inter. À Grande-Synthe, dans le Nord, les obsèques de Philippe ont été célébrées tout à l'heure. Le jeune homme de 22 ans est décédé la semaine dernière suite à des coups portés à la tête. Un troisième mineur âgé de 15 ans a été mis en examen aujourd'hui pour meurtre avec guet-apens, soupçonné d'avoir tendu un piège à la victime en lui fixant un rendez-vous via un site de rencontre.
Le projet de loi sur la fin de vie poursuit son marathon législatif.
Avec la volonté d'écouter, d'apaiser, de convaincre pendant une dizaine de jours, 71 députés de tous bords réunis en commission spéciale mènent des auditions afin d'affiner le texte soumis par le gouvernement. Hier, ce sont les fédérations hospitalières qui sont venues faire part de leurs réserves. Aujourd'hui, place aux représentants des cultes, audition que vous avez suivie. Bonsoir Alice Cachaner.
Bonsoir.
Et sans surprise, les représentants religieux ont rappelé leur opposition à l'ouverture de l'aide active à mourir.
Oui, ce n'est pas un front de religion qui s'exprimait cet après-midi. Mais presque, les différents cultes, qu'ils soient protestants, bouddhistes, musulmans, catholiques ou orthodoxes, tous ont rappelé l'interdit de tuer, le caractère sacré sacrée de la vie, principe commun à leur religion. Certains hauts dignitaires implorent les députés, je cite, « légiférer avec prudence, légiférer la main tremblante ». Au cours de l'audition, le ton devient parfois véhément. Le professeur Sadek Belloussif, référent pour les questions de fin de vie à la Grande Mosquée de Paris, n'hésite pas à qualifier l'euthanasie de mal moral absolu.
Notre système de santé va mal. Au moment où les difficultés sont grandes et l'obtention d'un simple rendez-vous médical difficile ou lointaine, le désert médical étant partout. Cette loi, pour moi, est inopportune. Elle donne un message troublant pour les plus pauvres, les plus fragiles ou pour des vies qui ne mériteraient plus d'être vécues.
D'autres représentants religieux évoquent une rupture de civilisation, un dérapage éthique. Des mots qui choquent certains députés, comme le centriste Nicolas Turquois.
Par rapport à mon propre parcours personnel par rapport à la foi, je vous avoue être déçu, voire choqué de ce que j'ai entendu. Pour moi, ce qui fait avancer, c'est le doute. Et là, j'ai entendu que des certitudes.
L'ensemble des cultes appelle à mieux appliquer la loi Claeys-Leonetti. Cette loi de 2016 qui a instauré le droit à une sédation profonde et continue pour les malades en fin de vie. Cette loi de 2016 contre laquelle de hauts dignitaires religieux s'étaient opposés à l'époque.
Merci Alice Cachaner. Ils ont permis de sauver 150 millions de vies au cours de ces 50 dernières années. Les vaccins comptent parmi les inventions les plus puissantes de l'histoire. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé publiée aujourd'hui, sommes-nous réconciliés avec la vaccination? C'est le thème du téléphone sonne tout à l'heure après le journal de 19h. Roland Garros sans Rafael Nadal. Il y a quelques années, cela paraissait totalement impensable, mais d'importants soucis de santé sont passés par là. Et le champion espagnol n'exclut pas de déclarer forfait pour la seconde année consécutive. Il a repris la compétition la semaine dernière après 3 mois d'absence, mais il n'est pas encore totalement remis. Et lors d'une conférence de presse tout à l'heure à Madrid, Rafael Nadal a laissé planer le doute sur sa présence porte d'Auteuil le mois prochain.
Je ne sais pas ce qui va se passer dans les 3 prochaines semaines. Je vais me battre et faire tout ce qui est possible pour essayer de jouer à Paris. Si tu peux, tu peux. Et si tu ne peux pas, alors tu ne peux pas. Et si je ne peux pas, je n'irai pas. Je n'irai pas jouer à Paris. Et comme je suis aujourd'hui, si j'étais à Paris précisément, je n'irai pas sur le coup.
Voilà les doutes de Rafael Nadal qui a tout de même remporté, il faut le rappeler, 14 fois le tournoi de Roland-Garros. Et puis c'est un genre en pleine expansion avec ses 6 millions de titres vendus l'année dernière et son public jeune et majoritairement féminin. La romance a désormais sa première librairie dédiée. Elle vient d'ouvrir ses portes à Rouen. L'encre du cœur, c'est son nom, de Désemplis pas, Emmanuel Grabé.
L'image de la patronne, Edith, 24 ans, tout juste diplômée de sciences politiques, elle est tombée dans la romance un peu par hasard. Il y a quelques années, un jour de vacances, quand sa grand-mère lui a acheté le premier Twilight.
J'ai été passionnée, j'ai pas arrêté de lire. Après, aujourd'hui, Twilight, c'est très désuet. Ça va vraiment être juste une histoire d'amour, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On parle vraiment de choses très importantes.
On aborde le harcèlement, les violences conjugales, la confiance en soi, des thématiques qui parlent au public cible, 18-35 ans, très branchés réseaux sociaux, comme Emeline.
Avant, je lisais pratiquement que de la fantasy, et puis je suis tombée dans l'univers de la romance, à cause d'Instagram.
Où on se lit des passages de romans.
C'est vrai que parfois, avoir des petits extraits, ça donne plus envie de lire que juste la quatrième de couverture.
Et dans la romance, les catégories sont innombrables, alors on demande à Noémie, pas encore la trentaine, de nous aiguiller vers un premier roman. Elle nous conseille la saga Campus Drive.
C'est hyper feel good avec un petit côté un petit peu spicy parce qu'il y a des scènes un petit peu croquantes si je puis me permettre.
On se fait une petite lecture du coup.
On fait un truc à 3 mois.
Quand je termine en balançant mon t-shirt par terre, elle me passe au crime.
Si j'avais su qu'il suffisait que j'exhibe ce super corps pour que tu tombes amoureuse de moi.
J'étais amoureuse de toi avant ça, espèce de super crétin borné.
Si vous n'êtes pas convaincu, il y a du choix. La librairie annonce 2500 références en rayon, en français, en version originale et même des autrices locales.
Et ben voilà, vive la romance. Oui, reportage exactement. D'Emmanuel Grabé de France Bleu Normandie pour France Inter.
Céline Asselot pour le journal, merci beaucoup. Il y a tout de suite dans Un jour dans le monde, vous serez à 24 milliards de kilomètres. Hein. Vous voyagez vite, dites-moi. Un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Sébastien Léas, une nuit encore froide sur le nord-est.
Oui, une large partie nord-est même, puisque les températures pourront être négatives du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi en Ile-de-France, en Normandie ou encore en Auvergne-Rhône-Alpes. Il fera par exemple moins 1 degré à Reims, Étampes et à Dijon, et 0 degré au Puy-en-Velay, à Évreux et à Charleville-Mézières. En revanche, à partir de demain après-midi, les températures vont amorcer une hausse, et cette hausse va se poursuivre dans les prochains jours, ce qui permettra d'ailleurs de retrouver des valeurs de saison en fin de semaine ou en tout début de semaine prochaine. Alors pour demain, c'est encore la fraîcheur qui persistera dans l'ensemble avec 10 à 15 degrés sur la moitié nord et 14 à 19 degrés sur les régions du sud. Prévoyez 12 degrés à Lille et Strasbourg, 13 degrés à Brest et Rouen, 14 pour Paris, 15 à Lyon et Bordeaux et 18 degrés pour Montpellier et Toulon.
Et encore des nuages et des averses pour demain, Sébastien.
Oui, on garde des conditions instables avec un ciel souvent chargé. Demain, c'est surtout entre les côtes Aquitaine, le Massif central et Midi-Pyrénées que les averses seront les plus nombreuses et que les nuages seront les plus étendus. Il faut aussi s'attendre à quelques averses localisées entre la Bretagne et les Hauts-de-France ainsi que sur le Grand Est. Sur le reste du pays, le temps sera plus sec, le soleil sera généreux en Rhône-Alpes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse. Sur le Languedoc-Roussillon, la matinée se passera aussi sous le soleil, mais un épais voile nuageux va envahir le ciel l'après-midi. Et puis des pays de la Loire, au bassin parisien jusqu'en Bourgogne et au Jura, des éclaircies arriveront à filtrer, mais elles seront parfois discrètes après la mi-journée.
Sébastien Léas de Météo France, merci. Sébastien, vous revenez tout à l'heure après le journal de 19h.